Chapitre 13. La traversée du miroir. La vie a besoin d'illusions, c'est-à-dire de non-vérités tenues pour des vérités. Friedrich Nietzsche. Boston, 2010. En entrant dans la maison, Emma avait déclenché un léger signal sonore qui ressemblait à un sonar. Elle ferma la porte et se tourna vers le boîtier de l'alarme. Impossible de rentrer le code pour désactiver le système, elle ne le connaissait pas. Encore combien de temps avant que le bruit discret du détecteur ne laisse la place à un signal plus intimidant? Elle tenta d'avaler sa salive, sans succès. Elle avait la gorge sèche, le front couvert de sueur. Elle resta immobile quelques secondes dans la peau du condamné, attendant l'office du bourreau. Enfin, les bips de mise en garde s'interrompirent et le hurlement assourdissant d'une sirène fit vibrer les murs. Elle avait beau s'attendre à ce déferlement, la violence de la sonnerie provoqua une coulée d'angoisse dans ses veines. Elle sentit un début de panique. Elle frissonna. Le sang battait dans ses tempes de plus en plus fort. À ce moment, son téléphone vibra dans sa poche. Elle décrocha et parla le plus fort possible pour couvrir le bruit de la sonnerie.
Allô ?
Madame Kate Shapiro ?
Elle-même !
Société de surveillance Blue Watcher, nous venons de...
Mon alarme, oui, je suis désolé. Mon mari a dû changer le code sans m'en avertir. Pouvez-vous la faire cesser ?
Pas avant d'avoir procédé aux vérifications d'usage.
Si Romuald n'avait pu désactiver le système à distance, il avait néanmoins réussi à pénétrer dans le serveur de l'entreprise. Il avait subtilement modifié le numéro à contacter en cas de déclenchement de la sonnerie, remplaçant les portables de Kate et de Matthew par le seul numéro d'Emma. Il avait aussi réalisé une copie d'écran du dossier révélant les réponses aux trois questions secrètes nécessaires pour authentifier le correspondant et couper la sirène.
Dans quelle ville vos parents se sont-ils rencontrés ?
Demanda l'employé. Emma baissa les yeux pour lire les réponses que lui avait communiquées Romuald et qu'elle avait notées au stylo sur son poignet.
À Saint-Pétersbourg !
Quel était votre film préféré lorsque vous étiez enfant ?
Les aventures de Bernard et Bianca.
Comment s'appelait votre meilleure amie lorsque vous étiez étudiante ?
Joyce Wilkinson !
Répondit-elle sans hésiter. Instantanément, la sirène cessa de hurler.
Je vous remercie, Madame Shapiro. À l'avenir, demandez à votre mari de vous prévenir en cas de changement de code.
Emma raccrocha et essuya les perles de sueur sur son front. Elle s'avança vers la fenêtre tout en restant dissimulée derrière le rideau. Aucun mouvement ne troublait Louisburg Park, mais cela risquait de ne pas durer. Que dirait-elle si un flic sonnait à la porte? Ou si Matt ou Kate rentraient chez eux à l'improviste? Elle refoula cette idée et décida de commencer son exploration. Sa colère envers Kate l'a motivée et avait eu comme premier bénéfice de la faire sortir de son état dépressif en lui donnant l'envie de se battre pour elle, pour son avenir, pour Matthew. Emma ne savait pas très bien ce qu'elle cherchait. Une confirmation de l'infidélité de Kate? Un indice qui pourrait la mettre sur la piste de l'identité du mystérieux inconnu? En tout cas, elle devait aller au-delà des apparences, fouiller dans l'inconscient de la maison. Les placards, les armoires, les tiroirs, les ordinateurs, la cave. Le rez-de-chaussée était aménagé comme un loft avec un grand salon et une cuisine ouverte. Le chauffage diffusait une douce chaleur. La pièce était agréable, accueillante, familiale. Près du canapé, un beau sapin de Noël aux lumières clignotantes. Sur le comptoir de la cuisine, des miettes de pain, un pot de confiture qu'on avait oublié de ranger, un dessin d'enfant à moitié colorié, le New York Times du jour, ouvert au cahier culture. Sur les murs et dans les cadres posés sur les étagères, on pouvait voir de nombreuses photos des membres de la famille, dont des clichés en noir et blanc qui représentaient à coup sûr Kate enfant. Une jolie petite fille blonde et sa mère autour d'un piano ou marchant main dans la main dans les rues d'une ville russe, sans doute Saint-Pétersbourg. Puis, des clichés à la couleur passée. Une frêle adolescente posant devant le Space Needle, et plus tard, une jeune étudiante, presque diaphane, en jean et sac à dos, sur les pelouses qui s'étendaient devant le campanile de l'université de Berkeley. Un saut dans le temps faisait alors passer de l'étudiante timide à une jeune femme pleine d'assurance. C'était la Kate d'aujourd'hui, celle qu'elle avait aperçue. La chirurgienne sûre d'elle, au physique avantageux, posant avec sa fille et son mari. Ces clichés soulevaient plusieurs questions, mais Emma réserva son analyse pour plus tard. Elle dégaina son téléphone et consacra 3 minutes à fixer sur l'objectif toutes les photos affichées dans la pièce. Dans la cuisine, elle garda aussi une trace de l'emploi du temps hebdomadaire de Kate placardée sur un panneau de liège. Délaissant provisoirement le rez-de-chaussée, jugé trop exposé, elle monta au premier étage. Il s'articulait autour d'une grande suite parentale à la décoration dépouillée, desservie par 2 salles de bain et prolongée par un dressing, une chambre d'enfant et une pièce presque vide qui faisait office de bureau. La chambre du couple était envahie de livres posés à même le sol des 2 côtés du lit. À gauche, des essais de philosophie, vie de Saint-Augustin, lecture de Nietzsche. À droite, des publications scientifiques. Les chirurgies de l'insuffisance cardiaque, les cardiopathies congénitales, sang artificiel et cellules souches. Pas difficile de deviner la place de chacun. Cette vision du lit conjugal raviva chez Emma les braises de la jalousie. Nerveuse, elle inspecta les étagères et fouilla les tiroirs de la commode. Dans l'un d'eux, elle trouva les passeports du couple. Elle ouvrit le premier. Matthew Shapiro, né le 3 juin 1968 à Bangor, Maine. Puis, le deuxième. Ekaterina Lyudmila Svatkovsky, née le 6 mai 1975 à Saint-Pétersbourg, Russie. Kate est russe. Ça expliquait la blondeur, les yeux clairs, cette beauté froide et distante. Le bruit d'un moteur de voiture monta de la rue. Craignant un retour du couple, elle jeta un coup d'œil par la fenêtre, fausse alerte, avant de poursuivre ses investigations. Elle ne perdit pas de temps dans la salle de bain de Matthew, mais s'attarda dans celle de Madame. Elle ouvrit les portes, les tiroirs et les compartiments de tous les meubles. L'élément principal, une étagère suspendue, débordait de produits de beauté. Crème, lotion, maquillage. Dans la colonne en bois peint qui faisait office d'armoire à pharmacie, elle trouva des tubes en plastique dont elle parcourut les étiquettes. Aspirine, paracétamol, ibuprofène. Des flacons d'alcool à 70 degrés, de sérum physiologique, d'eau oxygénée. Derrière les boîtes de pansements adhésifs et de compresses, elle fit une découverte plus inattendue. Des molécules aux noms complexes mais familiers, qui étaient ceux d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de somnifères. Emma n'en crut pas ses yeux. Kate et elle fréquentaient les mêmes sulfureux amis. Pendant quelques secondes, elle en éprouva un étrange réconfort. Malgré les apparences, Kate n'était pas la femme épanouie et sereine qu'elle s'était imaginée. Elle était sans doute comme elle, tourmentée, anxieuse, peut-être vulnérable. Son mari était-il au courant du contenu de l'armoire à pharmacie? Probablement pas, sinon la chirurgienne n'aurait pas rangé si soigneusement les tubes. Et puis Matthew n'avait pas l'air d'être le genre d'homme à aller fouiller dans les affaires de sa femme. Elle poursuivit son exploration en pénétrant dans la salle penderie. Mon rêve. C'était le dressing parfait. Vaste, épuré, raffiné et fonctionnel. Des portes coulissantes en bois clair alternées avec des panneaux de verre et des façades en miroir qui agrandissaient encore l'espace. Avec une curiosité assumée, elle ouvrit méthodiquement chaque penderie, fouilla chaque armoire, inspecta chaque tiroir, souleva des piles de vêtements, examina des dizaines de paires de chaussures et de pièces de lingerie. Posée contre le mur, une échelle en bois sombre et un marchepied permettaient d'accéder aux espaces les plus hauts. Elle s'y hissa pour passer au crible le contenu de cette partie du dressing. Assez vite, elle mit la main sur un blouson de cuir plié et posé à plat sur la plus haute des étagères. C'était une veste de motard usée avec un col en mouton retourné. Le même genre de veste que portait l'amant de Kate ce matin. Emma l'examina avec attention. Elle palpa la doublure. Dans l'une des poches à rabat, elle trouva un cliché délavé. C'était une photo de Kate, seins nus, qui devait remonter à une 15aine d'années. La pose sexy et provocante d'une jeune femme d'à peine 20 ans qui fixait l'objectif avec une intensité rare. Emma retourna la photo à la recherche d'une indication, mais rien n'était inscrit au verso. Son excitation monta de plusieurs crans. Comme elle l'avait fait précédemment, elle garda une trace du cliché sur son téléphone avant de le remettre dans la poche du blouson et de ranger ce dernier. Il faut partir à présent. Par acquis de conscience, elle alla jeter un œil au dernier étage. Cette partie de la maison n'était pas chauffée. Elle abritait ce qui devait être une chambre d'amis, une autre salle de bain et deux grandes pièces encore en travaux. Elle redescendit au rez-de-chaussée et effectua un dernier tour. Sur une petite table en bois marquetée se trouvait l'ordinateur familial. Elle l'avait déjà remarqué tout à l'heure, mais elle avait pensé qu'il était protégé par un mot de passe. Sait-on jamais ? Elle fit bouger la souris pour mettre l'appareil sous tension. L'écran s'ouvrit sur la session de Kate. Pas de mot de passe, pas de protection. Donc, pas d'infos intéressantes, pensa-t-elle. Elle fureta tout de même dans les différents dossiers. Kate n'utilisait apparemment cet ordinateur qu'à des fins professionnelles. Il regorgeait d'articles, de fichiers, de films se rapportant à la chirurgie et aux malformations cardiaques. Idem pour l'historique du navigateur Internet et le courrier électronique. Seule entorse à cet univers médical, les tribulations d'une Bostonienne, un blog artisanal sur les bonnes adresses de Boston, restaurants, cafés, magasins, que la chirurgienne semblait tenir avec plus ou moins d'assiduité. Emma nota l'adresse du site sur son avant-bras et essaya d'ouvrir la session de Matthew. Celle-ci n'était pas plus protégée que celle de sa femme. Apparemment, la confiance régnait dans le couple, du moins sur ce point. Emma se livra à la même analyse et ne trouva rien de bien marquant. Il y avait néanmoins plusieurs centaines de photos regroupées en désordre dans un dossier. Elle commença à les faire défiler, mais il y en avait trop pour les voir toutes. Elle fouilla dans la poche de son manteau pour y prendre son trousseau. Son porte-clés était une petite bouteille en métal représentant une bouteille de pinot noir californien. Un objet publicitaire qu'on lui avait donné lors de la visite d'un domaine viticole. En faisant coulisser la partie haute de la bouteille, l'embout d'une clé USB apparut. Emma la connecta à l'ordinateur pour y copier les photos, se laissant la possibilité de les regarder plus tard tout à son aise. La copie était en cours lorsqu'elle entendit la pétarade d'une moto. Elle retira la clé USB sans attendre et s'approcha de la fenêtre. Merde ! Cette fois, c'était bien Matthew et Kate qui se garaient juste devant la porte d'entrée. Trop tard pour faire demi-tour. Une seule solution, battre en retraite. Elle empruntait les marches qui menaient aux chambres au moment où la porte d'entrée s'ouvrit. De l'étage, elle entendait distinctement les voix de Matthew et de Kate. Elle prit peur et se réfugia dans la chambre du couple. En essayant de faire le moins de bruit possible, elle souleva la fenêtre à guillotine. En jetant un dernier coup d'œil à la pièce, elle aperçut au loin, dans le dressing, quelque chose qui ne l'avait pas frappé la première fois, mais qui l'étonnait maintenant. Pourquoi y avait-il une échelle en bois posée contre le mur? Le marchepied qu'elle avait utilisé suffisait largement pour accéder aux plus hautes étagères. Elle arrêta son mouvement et revint à pas de loup dans la salle penderie. Et pourquoi l'échelle est-elle en bois sombre alors que tous les meubles de l'étage sont en bois clair? Emma leva les yeux au plafond et, malgré les voix du couple qui montait du salon, déploya l'échelle et grimpa sur les premiers barreaux. L'échelle n'est pas là pour accéder à la penderie, mais pour accéder au plafond. Arrivée sur les derniers barreaux, Emma poussa la plaque de plâtre du faux plafond. En tendant la main, elle sentit quelque chose. Une lanière, la bandoulière d'un sac plutôt. Elle tira et un gros sac en toile tomba. Par un réflexe désespéré, elle parvint à le rattraper. C'était un fourre-tout en toile rouge plastifiée avec un logo blanc représentant la virgule d'une célèbre marque de sport. Le sac était lourd, bourré à craquer. En équilibre sur l'escabeau, elle l'ouvrit d'un geste vif, regarda à l'intérieur et sous le coup de la surprise, faillit le lâcher. Le rythme de son cœur s'accéléra. Elle entendait des pas qui montaient dans l'escalier. Elle remit le sac dans sa cachette, replaça le faux plafond, descendit l'échelle et traversa la pièce en trombe. La fenêtre de la chambre était restée ouverte. Elle enjamba le cadre, dévala l'escalier de secours en fonte et s'enfuit à toutes jambes.